Fort Calquier au temps de la peste. Une série de 3 épisodes présentée par Jean-Yves Royer. Épisode 3, la grande vague de peste aux alentours de 1630.
La deuxième grande vague de peste, et là c'est partout en Occident, c'est aux alentours de 1630. Alors pour Fort-Calquier, elle est très bien documentée, parce qu'il y a un historien de Fort-Calquier qui était pharmacien de son métier, et écrivain provençal par ailleurs, Jeanne Plouchu, qui a écrit une brochure sur cette peste-là. Alors comme il était pharmacien, il a un regard évidemment très documenté là-dessus. Alors voilà comment dans cette brochure, comment il décrit l'arrivée de la peste. En 1628, on apprit tout à coup que la peste avait fait son apparition à Lyon à la suite de l'armée du marquis d'Uxelles qui revenait d'Italie. De Lyon, elle gagna rapidement le Dauphiné, qu'elle envahit tout entier, ainsi que la Haute-Provence. À cette nouvelle, nos consuls prirent immédiatement des mesures pour préserver Fort-Calquier du fléau. Les portes de la ville furent murées à chaux et à sable, hormis celle de l'église Notre-Dame, donnant accès sur le Bourguet. Des barrières furent établies sur toutes les routes. On contraignit les voyageurs étrangers, non munis d'un billet de santé, à rebrousser chemin. Les indigènes arrivant du dehors furent impitoyablement mis en quarantaine. Et alors, cette peste de 1630, Plouchu l'a décrit. Alors, il décrit notamment les parfums. Les parfums, parce que l'idée, c'était que c'était l'air qui transmettait cette peste, alors qu'une peste pulmonaire. Donc, finalement, quand on tousse, on la transmet, hein, même si les plus y sont pour l'essentiel. Mais ça peut aussi se transmettre comme ça. Et donc, on désinfecte l'air des maisons où il y a des malades. Alors, on désinfecte soit, selon qu'on est riche ou pauvre, il y a les parfums doux pour les riches, et on brûle des aromates, des épices. Alors, ça sent très bon, mais ça sert strictement à rien. Par contre, pour les pauvres, on brûle du soufre, du goudron, et là, par contre, c'est désinfectant. Et là, c'est une certaine efficacité, alors c'est paradoxal. Et après, on essaie de tout désinfecter. Alors, par exemple, le courrier, ben, on le passe à de la fumée, ou carrément, on le plonge dans du vinaigre. Tous les objets, on les désinfecte en les trempant dans du vinaigre. Hein, voilà. Plouchu raconte le détail exactement, la composition des parfums, etc.
Mais ces mesures, pour le coup, elles sont assez peu efficaces. On sent qu'il y a une intuition par rapport à la désinfection, mais ce ne sont pas encore des choses qui sont réellement mises en place.
Par contre, si les mesures de confinement, les mesures de barrer les portes, d'avoir des billets de santé et compagnie, on s'aperçoit que ça fonctionne. Simplement, on s'y prend tard, on s'y prend mal, on se rend compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et on a pris des dizaines et des dizaines de dispositions qu'on a publiées. Et alors, lorsque la peste reviendra plus tard, en 1720, là, on ressort toutes les mesures qu'on avait expérimentées en 1630, et là, ça marche partout où on le fait, et où on le fait sérieusement. Et notamment en Haute-Provence, ça marche.
Ça marche, c'est-à-dire que la peste n'arrive pas ?
Alors qu'à Marseille, par exemple, ils ont fait n'importe quoi, il y a la moitié de la population qui y est passée. Dans ce qui sera plus tard les Basses-Alpes, il n'y a que 3 localités qui ont été touchées, Sainte-Tulle, Corbière et Gobert, près de Digne. Et toutes les autres, notamment les grandes villes, Manosque, Fort-Calquier, Sisteron, Digne, elles n'ont pas été touchées parce que là, on a pris les dispositions, on a monté la garde sérieusement, on a établi des guets sur les points de passage, sur le long de la Durance, sur les bacs de la Durance, on a monté la garde. Il y avait des soldats tout le long, des barrières. Les endroits où il n'y avait pas de remparts, on faisait des barrières en planches, des bois, même à Fort-Calquier. Les portes de la ville étaient fermées et il y avait quand même sur les chemins des barrières, des barricades, avec des postes de guets, déjà des avancées. Des avant-postes avec des soldats qui les gardaient. Alors ça coûtait très cher, mais ça a marché.
Ça a marché. Après, le dispositif qui est mis en place, pour le coup, il est assez radical et assez autoritaire. On envoie l'armée pour que les gens ne puissent pas franchir certaines zones territoriales. C'est des frontières fermées qui sont établies.
Tout à fait. Et des frontières qui sont à chaque village. Hein. Chaque village, chaque ville a ses frontières. Hein.
Et le fait qu'à Marseille, ça n'ait pas marché, c'est parce que ce dispositif n'est pas mis en place ? Ou c'est lié aussi au fait que c'est déjà une grande ville où ça brasse énormément de gens ?
Quand un bateau est arrivé qui avait la peste, il y avait surtout des cargaisons de tissus précieux appartenant à un des édiles, quoi. Et donc, on a fait comme si les gens qui étaient morts de la peste, ils étaient morts par hasard de mort naturelle. Et au lieu de mettre le bateau en quarantaine stricte, on l'a un peu mis de côté, puis on a quand même débarqué les tissus, puis voilà. Alors qu'il aurait fallu une quarantaine stricte, brûler tous les tissus, et puis voilà. Mais la foire de Beaucaire approchait, il y avait des sous qui étaient en jeu, des gens bien placés qui avaient les sous qui donnaient les ordres, et voilà qu'on a peste et rentré dans Marseille.
Et du côté du village de Saint-Tulle que vous avez évoqué, il y a des cas qui se révèlent.
Ah oui, c'est la ville du département, enfin, qui a eu le plus de morts de la peste. Sur les trois, c'est celle qui a eu le plus de morts. Et alors là, ça aurait pu parfaitement être évité. À Saint-Tulle, il y avait une dame de Saint-Tulle, une paysanne, qui était allée à Marseille prendre un bébé pour le mettre en nourrice. Comme ça, c'est longtemps fait. Ça faisait encore au XXe siècle. Hein. Bien entendu, la peste était déjà à Marseille, mais il n'y avait aucune mesure qui avait été prise. Donc, quand elle est revenue de Marseille avec le bébé, elle a ramené la peste. Elle et le bébé avaient la peste. Bon, elle habitait une campagne en dehors de Saint-Tulle, et là, au bout de quelques jours, elle est morte, et le bébé aussi. Bon, la municipalité a pris une décision tout à fait sage. Elle a dit, voilà, on va murer les portes et les fenêtres de cette maison. Puis voilà, on laisse les cadavres à l'intérieur, au moins on n'aura pas la peste. Mais le curé de Sainte-Tulle a dit, non, c'est un scandale, pas question. Il faut qu'elle ait un enterrement chrétien, il faut l'amener à l'église, dire la messe, tout ça. Et bon, à l'époque, le curé, ça comptait. Les gens, ils ont obéi, à contre-cœur, ils ont obéi. Il a fait un bel enterrement dans l'église de Sainte-Tulle, on l'a mis au cimetière en terre chrétienne, et la peste a emporté plus de la moitié de la population, dont le curé, mais ça c'était la moindre des choses. Et il y a aussi cet épisode un peu dramatique, c'est qu'à Sainte-Tulle, il y a une cinglée. Quand il a vu les gens qui meurent, alors ils ont des bubons, des abcès purulents, on leur met des cataplasmes, des chiffons, ce qu'on veut, et il récupère les pansements pleins de pus, et il va badigeonner le canon des fontaines de la ville. Quand on s'en aperçoit, évidemment, on le poursuit, il va se réfugier à un endroit et bon, il va y mourir de la peste. Quoi.
C'était Fort Calquier au temps de la peste, épisode 3. La grande vague de peste aux alentours de 1630. Présenté par Jean-Yves Royer. Et retrouvez l'intégralité des épisodes sur notre site fréquencemistral.com.